Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée ce matin par Sven de Chartres. Pour écouter La Parisienne libérée avec Green.
La France peut réussir sa croissance verte à condition que dans croissance verte, elle n'oublie pas le mot croissance.
Il faut qu'on pollue moins pour polluer plus longtemps. Et si on fait ça bien, on pourra polluer plus souvent. Faut faire confiance aux gens qui disent d'un air savant, si le nuage est vert, il s'arrêtera à la frontière. File-moi un pot de peinture, que je refasse ma devanture. Un petit coup de peinture green, ça fera pas de mal à ma vitrine. Y'a du business à faire, on va tout peindre en vert. Nos oiseaux, nos cimetières et même nos centrales nucléaires. Sous l'étiquette éthique, on laisse le même produit. Mais la pensée magique nous autorise à monter le prix. Le développement durable, c'est pas fait pour durer. C'est fait pour être rentable en prenant l'air très concerné.
Ce matin, j'étais à Thionville. Le patron de la centrale nucléaire de Cattenom était très heureux de me présenter la maquette de ses futurs immeubles de bureaux qui étaient avec tous les critères les plus écologiques et les plus économiques en énergie qu'on puisse imaginer.
Que je refasse ma devanture. Un petit coup de peinture green, ça fera pas de mal à ma vitrine. Y'a du business à faire, on va tout repeindre en vert. Nos oiseaux, nos cimetières et même nos centrales nucléaires. Quelle belle évolution, c'est vraiment formidable. Tous ces marchands de canons qui font du commerce équitable. Tous ces marchands de tabac devenus écolos. Est-ce que maintenant tu crois qu'on attrapera des cancers bio? File-moi un pot de peinture, que je refasse ma devanture. Un petit coup de peinture green, ça fera pas de mal à ma vitrine. Y'a du business à faire, on va tout repeindre en vert. Nos oiseaux, nos cimetières et même nos centrales nucléaires. Nos oiseaux, nos cimetières et même nos centrales nucléaires.
Voilà, Green, c'est la chanson de la Parisienne libérée sur le greenwashing. Et on a en ligne l'un des membres du comité de rédaction de CQFD, c'est Jules Lucas qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, CQFD, vous nous rappelez un petit peu ce qu'est ce journal, qui est un mensuel. J'ai entre les mains le numéro d'octobre 2011. Alors, quelle est votre ligne éditoriale, s'il y en a une ?
S'il y en a une, effectivement, notre ligne éditoriale, on était un journal de critique et d'expérimentation sociale. Mmh. On est un journal qui soutient tous les gens qui ne se laissent pas faire, qui baissent pas la tête, qui la relèvent, qui s'organisent, qui expérimentent de nouvelles manières d'agir, de faire, de protester, de résister. Voilà, c'est à peu près la ligne éditoriale. Après, on a notre point de force, c'est le fait, si on peut dire, et dont on est très fier, c'est qu'on n'a aucune aide, ni subvention, ni publicité, évidemment, et qu'on est un journal totalement indépendant, qui n'avons des comptes à rendre qu'à nous-mêmes.
Et à vos lecteurs, voilà.
Et à nos lecteurs, et aux gens dont on parle, puisqu'on est d'une très grande rigueur au niveau de ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils font, et on respecte totalement, jamais on déforme, jamais du tout, on valide tout, on vérifie tout ce qu'on dit, voilà.
Enfin, en fait, vous êtes des vrais journalistes, qui défendaient un peu l'honneur de ce métier.
En quelque sorte, on pourrait dire ça, ouais.
Alors, le numéro que j'ai entre les mains, en une, c'est le titre, c'est par où la sortie de crise. Oui. Ben voilà, il faut voir le dessin pour voir le carnage que c'est. C'est assez drôle néanmoins. Et puis il y a plusieurs articles qui m'ont intéressé. Notamment, c'est tout à fait un hasard, mais il se trouve que je tombe sur un article intitulé « Mais pas de l'huile », qui parle de la fameuse usine d'huile de palme de Port-la-Nouvelle, qui est un gros scandale et qui est justement nominée par les prix Pinocchio dont on vient de parler dans cette émission. Voilà, vous pouvez peut-être me dire un mot de cette fameuse usine de Port-la-Nouvelle et de ceux qui luttent contre l'huile à tout va.
Oui, on peut en parler très rapidement. Disons que bon, tout un sujet qui était réalisé par... on a un certain nombre de contributeurs et de correspondants dans différentes régions en France et un petit peu à l'international. Bon, là, il s'avère que c'est quelqu'un qui est dans la région, par là-bas, qui s'occupait de parler de cette affaire sur cette usine d'huile de palme. Bon, il avère aussi qu'un certain nombre de personnes protestent contre cette situation, et c'est tout à fait le type même de sujet qu'on aborde, c'est-à-dire des sujets qui sont très peu nommés par la presse nationale et qui concernent des luttes locales et qui sont aussi des foyers d'expérimentation, de tentatives, de rencontres et de résistance plus générale. C'est-à-dire à la fois on parle d'une situation, on pourrait dire on fait un focus sur une situation assez étroite et on le renvoie à une généralité. Voilà, donc il y a plein de sujets comme ça dans le journal. C'est souvent le regard qu'on porte au niveau justement éditorial aussi avec cette idée que dans chaque petit événement, il y a une généralité qui est aussi une généralité qui se rapporte à tout ce qui concerne la décomposition du système tel dans lequel on vit, quoi. Voilà.
Voilà, ce qui est intéressant avec ce sujet, par exemple, c'est que là, le focus dans l'article est mis en partie sur ce qui se passe localement, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire l'exploitation des gens qui vont travailler dans ces usines, et puis aussi à l'international, parce que évidemment, cette huile de palme, elle est faite aussi au détriment des populations à qui on va prendre leurs terres pour cultiver ces denrées qui vont servir pour les agrocarburants, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment...
On aborde le sujet, un sujet qui est très important aujourd'hui, qui concerne tout ce qui concerne la monoculture, c'est-à-dire le ravage à la fois des pays d'Asie, etc., pour pouvoir exploiter l'huile de palme. On le retrouve aussi sur ce qui concerne les biocarburants, avec toutes les tentatives de monoculture sur les nouveaux procédés oléagineux concernant la substitution du pétrole, par exemple. Donc ça, c'est des sujets qui, d'autant plus que nous, on est très intéressé, on est très en contact avec des petits producteurs qui diversifient les cultures, qui respectent à la fois les cultures, mais surtout les liens sociaux. Et dans les exploitations massives qu'on peut constater, aussi bien au niveau de l'huile de palme qu'au niveau des monocultures de l'oléagineux, non seulement il y a cette destruction des terres, mais aussi fondamentalement une destruction des liens sociaux, des rapports que les gens entretenaient, et des produits qui sont ensuite diffusés, quoi.
On voit bien cette approche aussi globale, c'est-à-dire que vous ne centrez pas sur un seul aspect du problème, mais en fait vous arrivez justement à relier tout ce qui est lié, c'est-à-dire à la fois les histoires d'argent, les histoires de liens sociaux, c'est-à-dire à montrer que cette déconstruction qui est en marche, c'est une déconstruction globale, c'est pas juste un petit détail sur lequel il faut pointer. Et vous parlez aussi, puisque je rebondis là-dessus, puisque on en a parlé aussi dans cette émission, vous parlez dans ce numéro du journal du film de Christophe Coelho, Squat, donc on vient d'entendre sur Aligre, Christophe Coelho. Donc voilà, là aussi, c'est pointé sur un nouveau mode de vie possible.
Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, une réappropriation de l'urbanisme, c'est-à-dire là, sur la question de l'urbanisme, sur la question du logement. C'est quasiment une ligne de front par rapport aux ambitions des promoteurs, par rapport aux ambitions, par rapport au projet de l'économie, qui est la contrainte de l'accès à la propriété, qui est l'exclusion des gens qui n'ont pas trop d'argent, des démunis, des pauvres dans les périphéries urbaines. Et là, il y a véritablement une tentative de reprise en main collective. Et ce qui est frappant dans le film de Stéphane, c'est que tout ça se fait dans une ambiance de joie de vivre et de gaieté qui est assez extraordinaire et qui crée une grande empathie aussi bien pour le spectateur que pour les gens des quartiers. Visiblement, il y a cette fabuleuse scène des dames âgées là sur une chaise qui collent leurs affiches. C'est assez ça fait envie, quoi. Ça donne
on n'est pas obligé de lutter dans la douleur, hein. On peut aussi lutter dans la joie.
Exactement.
Et puisqu'on parlait d'urbanisme, il y a un gros dossier, enfin un dossier, un petit cahier spécial dans le numéro de en cours là de CQFD sur urbanisme de destruction massive, Euromed. Alors c'est vrai qu'ici on est à Paris, on parle assez peu de ce qui se passe à Marseille, mais c'est l'occasion de le faire avec vous. Qu'est-ce que c'est qu'Euromed 2 et en quoi ça pose un problème ?
Alors Euromed 2, c'est une énorme usine à gaz. Il y a déjà Euromed en tant que tel, le concept d'Euromed, c'est une énorme usine à gaz, dont on pourrait dire, qui s'argumente de différents, qui tourne ses canons sur plusieurs directions, à la fois sur la direction urbaine, de l'organisation de la ville, etc., ou aussi sur les ambitions qui sont un petit peu maintenant calmées par rapport à l'Union de la Méditerranée que voulait monter Sarkozy et qui s'est un peu effritée du fait de ce qui s'est passé notamment dans les pays arabes et aussi des pressions de l'Allemagne. Mais Euromed, le grand projet fondamental, c'est le fait que Marseille est une ville très très particulière en Europe occidentale, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est une des dernières villes où des gens qui n'ont pas d'argent, des pauvres, vivent au cœur de la ville.
Ouais.
C'est une ville avec une culture extrêmement mélangée, un grand mélange de populations, un grand mélange de cultures. J'aime pas employer le mot mixité, mais un grand mélange de cultures et de populations. Et c'est une ville qui est restée dans une grande partie très indocile par rapport aux injonctions de la société moderne, on pourrait dire.
Mm-hmm.
Alors à la fois une indocilité pratique, c'est-à-dire que il est notoirement connu que les plus grandes manifestations lorsqu'il y a des mouvements sociaux en France ont lieu à Marseille. Mais aussi avec une grande inertie, c'est-à-dire il y a un savoir-faire de l'esquisse, un savoir-faire de l'attente, un savoir-faire de l'usure. Ça fait très longtemps maintenant que l'État central, l'État parisien, puisqu'on est dans un pays jacobin, essaye de réduire Marseille. Ça fait très longtemps qu'il se casse les dents, en tout cas qu'il s'use les dents à pouvoir essayer de transformer cette ville. On assiste aujourd'hui avec Euromed, pour le coup, là, un véritable tir de barrage d'artillerie lourde, c'est-à-dire qu'ils sont en train de détruire des quartiers massivement, notamment dans le nord de la ville, des quartiers qui étaient des quartiers des zones populaires et aussi des quartiers d'artisanat. Donc c'est ça le sujet dont on traite sur Euromed 2, c'est-à-dire que régulièrement ils font progresser le champ de tir, on peut dire, pour agrandir de plus en plus et essayer de casser les racines mêmes de cette société très populaire, de ce monde très populaire qui est encore Marseille aujourd'hui.
Qu'on se comprenne bien, Gilles, Euromed 2, c'est pas quand même, enfin ça n'empêche pas la corruption, ça même la favorise, hein. C'est pas quand même quelque chose qui va pacifier et puis surtout, je sais pas comment on pourrait dire, polisser Marseille, hein. C'est presque au contraire, simplement l'esquive est à plus grande ampleur et touche d'autres gens.
Tout à fait, c'est-à-dire ça touche plein de gens. Et bon, ceci dit, c'est on pourrait dire qu'ils veulent dégager le terrain, le projet est à terme de dégager le terrain de l'affrontement fondamental qui est, pour résumer, entre pauvres et riches, on pourrait dire, pour laisser qu'un seul terrain, c'est celui de l'affrontement et de la concurrence entre prédateurs, entre riches, où ils vont se tirer la bourre, à savoir celui qui va conquérir le plus fort marché et s'enrichir le plus rapidement possible, avec évidemment toujours la socialisation des pertes à la finale, comme d'habitude. Quoi.
D'accord. Concrètement, ça va donner quoi et c'est prévu à quel terme l'aboutissement de ce projet, si tant est qu'il ne soit pas arrêté?
Voilà, donc les projets, la première chose qui est acquise pour eux, on peut dire, c'est le fait qu'il y ait d'énormes terrains vagues aujourd'hui dans les quartiers nord, du moins dans le début des quartiers nord marseillais. Ensuite, Marseille, c'est-à-dire les grands projets actuels qui sont en cours, à savoir Marseille 2013, capitale de la culture, avec des projets, quand on lit les cahiers des charges, qui sont toujours assez relativement pharaoniques, on est encore loin de pouvoir imaginer ce qu'ils vont pouvoir faire. On est loin encore de la simple ébauche de réalisation de ce projet. Une chose est acquise aujourd'hui, c'est que des quartiers sont ravagés, des populations sont expulsées, et il n'y a rien en substitution pour l'instant, quoi. Et ça, c'est déjà la chose acquise. On peut même dire que la principale chose qu'ils cherchent, c'est celle-là, c'est-à-dire la destruction des quartiers. Après, les ambitions de promoteurs, les ambitions de construction, c'est une autre affaire. Là, on attend de voir, tout en connaissant aussi en partie le résultat, de toute façon. Mais bon, ça peut durer encore très longtemps.
Ouais, d'autant que si on installe des squats autogérés dans tous les bâtiments où on expulse les gens, ça peut être pas mal. Ça laisse un champ possible.
Les squats à Marseille, c'est pas une chose très aisée jusqu'à présent. Bon, c'est pas Marseille de ce point de vue-là n'est pas spécifique. Hein. La lutte contre les squats s'est développée au niveau européen maintenant, et à Marseille c'est la même situation. Il faut voir aussi une autre chose actuellement qu'on connaît à Marseille, c'est que Marseille apparaît comme un espèce d'enjeu maintenant national et d'autant plus fortement à l'approche des élections présidentielles. C'est-à-dire Marseille est montré du doigt comme une ville d'insécurité, de règlement de compte, de circulation infernale, de Kalachnikov. Nous, on n'en a pas, hein. Mais bon, visiblement, il y en a partout. Il y a la presse officielle. Et il y a un véritable enjeu qui se fait au niveau de la sécurité. C'est-à-dire, on a l'impression, actuellement, Marseille, le cœur de la ville, on va en parler dans le numéro qui vient, là, qui va sortir. Le cœur de la ville subit une occupation policière assez phénoménale. massive, hein, et tout le monde va s'entre-déchirer à essayer de rétablir ce qu'ils appellent la sécurité en ville. Hein, et ça va être, je pense, ça va être un des enjeux politiques des prochaines présidentielles. Mm-hmm. Il faut savoir aussi que cette première assaut concernant la sécurité a été le résultat d'un reportage sur France 2 où on voit des jeunes qui sont accaparés un parking payant dans un quartier populaire de Marseille.
Ah oui, ça a été monté en épingle, c'était terrible.
Voilà, qui a été monté en épingle. Nous, on sait de sources sûres que les jeunes qui lèvent les barrières ont été payés par les journalistes.
Venir, ce sont des acteurs.
Ce sont des cas du quartier, mais qui avaient l'occasion de se faire quelques thunes, quoi. Mmh. Voilà, quoi.
Ben, en l'occurrence, ce sont des acteurs, pour le coup.
Voilà, c'était scénarisé, comme on dit.
Bon, bah ça c'est un classique, hein. Enfin bon, après ça, quand ce genre de communication sert à faire des lois sans qu'il y ait une vérification des sources, c'est quand même un petit peu un problème. Enfin bon, on n'est pas à ça près.
Ah, évidemment.
Mais c'est
évidemment.
Bien de le dire parce que je l'ai pas entendu beaucoup ailleurs, même si
oui,
on s'associe.
Oui, mais non, là, sur ce sujet, après effectivement, on peut être poursuivi. Sur mes propos peuvent être poursuivis en diffamation et j'aurais que des témoins tout à fait clairs à pouvoir produire, mais. Mais nous avons des sources sûres par rapport à ça. Donc c'est pas non plus un phénomène extraordinaire. On le sait sur les banlieues, les voitures, on le sait sur plein de situations, les reportages bidonnés sur les armes. C'est pas une nouveauté extraordinaire.
Bon, sinon il y a un autre titre là très très rapidement. Il nous reste moins d'une minute. Juste en appel de une, dette toxique, on a la solution. Donnez-la nous là en 30 secondes quand même.
À dette toxique, c'est un sujet très intéressant. C'est-à-dire, c'est une association qui s'est constituée, qui a monté, qui était alliée à un cabinet d'experts extrêmement pointus, qui arrive à négocier au niveau des dettes toxiques sur les municipalités, et les dettes toxiques autour des municipalités, collectivités locales, qui arrive à démonter tous les contrats qu'ont signés des grosses entreprises, des grosses sociétés comme Dexia, et montrer en quoi ces contrats étaient des contrats léonins. Mmh. En quoi ils étaient falsifiés, en quoi ils étaient d'une malhonnêteté profonde. Et ils arrivent donc à réduire massivement l'endettement. Excusez-moi. Et cette association, elle réinvestit, elle récupère une partie de cet argent, et elle réinvestit après dans des activités associatives et des activités locales. C'est-à-dire, en fait, tout ce que l'État, les collectivités locales, les conseils généraux, les conseils régionaux suppriment au niveau des subventions pour les associations, etc., cette association, à travers l'aide de ce cabinet d'experts, récupère de l'argent et qu'elle réinvestit. C'est-à-dire, elle vient supplanter, en fait, la disparition des aides de collectivités régionales et locales, quoi. Donc voilà, là, il y a un sujet très intéressant.
Comment s'appelle cette association ?
L'association s'appelle Un autre monde est possible.
Ben voilà, la preuve. La preuve.
Voilà, et donc le cabinet d'experts est mené en grande partie par un quelqu'un de très compétent qui s'appelle Laurent Rispoli. Et donc il y a moyen de trouver ses coordonnées aisément pour pouvoir se mettre en relation, et toutes les communes, si elles pouvaient se mettre en relation, pour aggraver ou en tout cas régler le compte aux prédateurs financiers qui participent à la destruction, à la décomposition de ce qu'on peut vivre, quoi.
C'est une bonne adresse à donner aux gens de Seine-Saint-Denis qui se sentent obligés de réduire les subventions à l'éducation populaire puisqu'ils n'ont plus d'argent.
Voilà.
Donc voilà, on va leur donner le tuyau. Merci beaucoup vraiment, Gilles Lucas, de nous avoir parlé de CQFD ce matin. Le prochain numéro, il sera en kiosque quand ? Je crois que c'est à la moitié du mois à peu près.
Le prochain numéro est en kiosque le 15 novembre.
D'accord.
Donc avec plein d'articles, notamment un très long article sur... Sur l'Égypte. Voilà,
très
quelqu'un
bien.
D'entre nous s'est rendu en Égypte.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup et vive CQFD. Au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
À bientôt.